Guerre ou pas guerre, George W. Bush pourra-t-il renoncer, alors même que semaine après semaine, de nouveaux renforts viennent compléter le formidable dispositif militaire anglo-saxon déjà en place au Moyen-Orient? Sera-t-il dire non à son entourage de faucons? Échappera-t-il à ce climat passionnel et quasi religieux qu'il a lui-même créé le jour où il a parlé de l'axe du mal? Après avoir tant diabolisé Saddam Hussein et son régime de terreur, acceptera-t-il de retenir son bras au dernier moment? Et enfin, a-t-il pris en compte tous les risques d'une guerre qui aboutirait à la chute du régime irakien, mais pourrait précipiter toute la région dans le chaos? Impossible pour le moment de répondre à ces questions, mais il m'a paru utile de revenir avec M. X sur les origines de ce conflit latent qui a pris au fil du temps l'allure d'un duel entre le dictateur irakien et le président américain. Et autant le dire tout de suite, il demeure beaucoup de points d'ombre dans cette histoire, à commencer par celui-ci. Pourquoi, en 1991, alors que le régime de Saddam Hussein semblait prêt à s'effondrer, le père de l'actuel président des États-Unis a-t-il soudain mis fin à la guerre du Golfe et laissé ainsi le dictateur irakien massacrer les populations qui s'étaient révoltées? Bref, pourquoi George Bush Senior a-t-il épargné Saddam Hussein? Mais ce n'est pas la seule question à laquelle se propose de répondre M. X.
Et les États-Unis n'ont pas toujours été hostiles à l'Irak, bien au contraire. Et moi, je n'oublie surtout pas que quelques mois avant la guerre du Golfe, un haut responsable américain affirmait que Saddam Hussein était une force de modération dans la région. Ouais. Or, à cette époque, on ignorait absolument rien de la nature sanguinaire du régime irakien. Et on savait en particulier que le dictateur avait utilisé des armes chimiques contre sa population kurde révoltée.
Ouais, en faisant des milliers de morts, hein,
je crois. Dans la ville d'Alabja. Et soyons clairs, jusqu'à l'invasion du Koweït, aux États-Unis, mais aussi plus généralement en Occident, on ne s'est guère soucié des violations des droits de l'homme en Irak.
Ouais, parce qu'à l'époque, on avait besoin de Saddam Hussein.
C'est évident. Enfin, je ne vais pas remonter très loin. Mais dans la première moitié des années 70, il s'agit d'abord d'éloigner Bagdad de son grand allié soviétique. Et c'est fait à partir de 1975. La France est alors en pointe. Nous concluons avec l'Irak de juteux contrats essentiellement militaires.
Ouais, on lui vend aussi des réacteurs nucléaires.
Hein. Oui, c'était alors l'époque où le Premier ministre Jacques Chirac était dans les meilleurs termes avec Saddam Hussein, pour qui il éprouvait, disait-il, estime et affection.
Enfin, je reviens à ces réacteurs nucléaires.
Il y en avait deux. Et l'un d'eux pouvait produire du plutonium.
Donc, pour fabriquer une bombe.
Naturellement. Saddam Hussein ne s'était pas caché que c'était son objectif. Et je peux bien vous le dire, on a été discrètement soulagés quand les avions israéliens ont bombardé ces installations en 1981, même si officiellement on a protesté. En tout cas, nous avons contribué, nous, Français, mais nous n'étions pas les seuls, à doter l'Irak d'un impressionnant arsenal militaire.
Et les Américains aussi?
Bien sûr. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas?
Oui.
Et pourtant, l'Irak figurait sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Y était en effet hébergé à l'époque le trop célèbre Abu Nidal. Mais les Irakiens, grâce à leur pétrole, étaient riches. Toutefois, dans le même temps, il faut le souligner, Washington vendait quantité d'armes au Shah d'Iran, qui était alors le principal allié des États-Unis dans la région.
Mais tout va changer avec la révolution islamiste de Khomeini.
C'est évident. L'ayatollah s'en prend très vite aux Américains.
Le grand Satan. Hein.
Et souvenez-vous de l'occupation de l'ambassade américaine de Téhéran, qui coûtera sa réélection au président Carter. Dans ce contexte, l'Irak laïque apparaît presque naturellement comme un rempart contre une possible contagion de l'islamisme. Un islamisme qui le menace aussi directement, puisque 60% de sa population est chiite.
Mais comme Roménie.
C'est ça. Mmh. Une population qui est sous le joug de Saddam Hussein, le sunnite. Mais l'exemple iranien peut lui donner des idées.
Donc il convient d'aider l'Irak.
Oui, hein? Même plus. Notons aussi que l'arrivée au pouvoir de Roménie en Iran coïncide pratiquement avec celle de Saddam Hussein en Irak.
Ah ben attendez, c'était déjà l'homme fort du pays.
Oui, mais enfin, il n'était que vice-président. Il y avait un président au-dessus de lui. En 1979, Saddam Hussein l'a purement et simplement écarté et a pris en main tous les leviers du pouvoir.
Ah, c'était plus simple. Enfin, quand vous dites que les Américains ont fait plus que l'aider...
Ben, il est certain qu'ils l'ont encouragé à attaquer l'Iran en 1980.
Comment pouvez-vous en être aussi sûr?
Disons qu'ils ne l'ont pas dissuadé, bien au contraire, ce qui revient au même, non? D'autre part, et c'est très important, car je vous le rappelle, l'Irak était encore considéré comme un pays soutenant le terrorisme. Bagdad a pu obtenir discrètement des livraisons de matériel électronique américain dernier cri. Donc Saddam Hussein, à juste titre, considérait désormais qu'il était devenu un allié respectable des États-Unis.
Mais un allié soupçonné quand même d'aider les terroristes.
Ah, plus pour longtemps. C'est en 1982, si ma mémoire est bonne, que le président Reagan a pris la décision de rayer l'Irak de cette fameuse liste. Dans le même temps, les Américains ont multiplié leur vente d'armes aux Irakiens. Des armes toujours plus sophistiquées. D'abord dans le plus grand secret, par l'intermédiaire de pays amis, puis plus ouvertement à partir du moment où les deux pays ont renoué des relations diplomatiques. Mmh.
Les États-Unis soutenaient donc clairement l'effort de guerre irakien.
Incontestablement. Et pourtant, aux yeux de la loi internationale, c'était l'Irak qui était l'agresseur.
Oui, c'est pour cette raison, l'invasion du Koweït, que les mêmes Américains déclencheront la guerre du Golfe.
Oui, mais au cours des années 80, Washington avait besoin de Bagdad pour contenir et affaiblir l'Iran. C'était toute la différence. J'ajoute que les Américains ne se sont pas contentés de livrer armes et matériel. Ils ont aussi fourni à Saddam Hussein d'énormes quantités de céréales.
Pourquoi ? Parce qu'il y avait un risque de pénurie alimentaire.
La guerre, une guerre de 8 ans, je vous le rappelle, avait désorganisé l'économie irakienne et il fallait nourrir la population. Les États-Unis ont donc prêté des sommes faramineuses aux Irakiens afin qu'ils puissent acheter du blé chez eux, bien sûr.
Bah oui, c'était tout bénéfice.
Évidemment. Figurez-vous, ça tombait très bien pour le lobby céréalier américain qui ne pouvait plus vendre de blé à l'URSS depuis la mise en place de l'embargo consécutif à l'invasion de l'Afghanistan.
Mmh. Mais la France n'était pas en reste.
C'est juste. Mmh. Dans cette terrible guerre Irak-Iran, nous avions très clairement choisi le parti du premier belligérant. Ça ira même très loin, puisque le président Mitterrand autorisera la mise à disposition de l'aviation irakienne de 5 super-étendards équipés de missiles Exocet. Ça permettra à Bagdad d'anéantir le terminal pétrolier iranien de l'île de Garg.
Mais on a aussi livré clandestinement des munitions à l'Iran pendant
le... Comme les Américains via Israël. Ce sera le fameux scandale de l'Iran Gate. En fait, il ne faut pas se le cacher, les uns et les autres avaient intérêt à ce que cette guerre où des centaines de milliers d'hommes allaient périr dure le plus longtemps possible. Il fallait donc veiller à établir une sorte d'équilibre entre les deux belligérants. Et lorsque les Irakiens seront à leur tour en difficulté, les Américains n'hésiteront pas à leur fournir des informations recueillies par leurs satellites ou leurs avions de surveillance AWACS.
Des informations sur les positions iraniennes.
Bien entendu. Je crois que rarement l'Occident, tout l'Occident, n'a fait preuve autant de cynisme que dans cette affaire. Un seul détail, mais il est important. Pourquoi, par exemple, a-t-on accepté que des firmes allemandes et belges livrent à l'Irak des produits chimiques qu'ils ont utilisés pour gazer les troupes iraniennes qui montaient en masse à l'assaut dans la région de Bassorah?
De très jeunes gens, souvent.
Et cet emploi des gaz s'est traduit par une hécatombe dans les rangs iraniens.
Nous, Occidentaux, avons donc contribué à doter l'Irak de ces moyens de destruction massive qu'on lui reproche aujourd'hui de dissimuler.
C'est la vérité. Si Saddam Hussein n'a pu perfectionner ses missiles balistiques, c'est grâce aux ordinateurs livrés par les Américains. S'il a pu construire des usines d'armement un peu partout, c'est grâce à l'argent occidental et au transfert de technologie. Quant au nucléaire, nous avons déjà parlé de la responsabilité française.
Alors pourquoi était-ce seulement pour faire pièce à l'Iran ?
À l'évidence, non. L'Irak, c'était alors la caverne d'Ali Baba. On y faisait d'excellentes affaires, car Saddam Hussein achetait tous azimuts. Il achetait au prix fort. Ça lui a permis de doter son armée en seulement quelques années d'un formidable potentiel militaire.
Voilà, la quatrième armée du monde, tout ça, comme on a dit avant le déclenchement de la guerre du Golfe.
Non, ça c'était de la propagande. Mais certainement l'armée la plus puissante de la région après celle d'Israël, et ce n'était déjà pas si mal.
Saddam Hussein, donc, achetait au prix fort, mais je vous dis, mais en avait-il les moyens ?
Non. Car la rente pétrolière ne suffisait plus, il était donc obligé d'emprunter.
Où ?
Aux États-Unis, mais aussi en Arabie Saoudite et dans les Émirats.
Et ces banques arabes acceptaient de prêter ?
Tant que la guerre avec l'Iran durait, elles pouvaient difficilement refuser. Car Saddam Hussein leur disait : « Je fais la guerre à l'Iran pour vous protéger du danger islamiste. » Mais quand la guerre s'est terminée en 1988, c'est autre chose.
Alors on lui a plus prêté.
Et on lui a demandé de rembourser. C'est alors qu'on s'est aperçu que l'Irak était menacé d'une véritable banqueroute financière. Le piège s'était refermé sur Saddam Hussein. L'avenir de son pays était désormais dans les mains des banques étrangères. Et c'est en partie pour échapper à cette tutelle qu'il s'est lancé dans sa folle aventure du Koweït.
Pierre-Jean Luisard, chercheur au CNRS, est un spécialiste du Moyen-Orient. Il vient de publier chez Fayard la question irakienne. J'en extrais. Washington donnait le feu vert pour des ventes d'armes sous couverture israélienne à l'Iran. Quand Bagdad semblait sur le point de perdre la partie, Washington encourageait les ventes d'armes françaises à l'Irak. En 1986, quand l'armée irakienne était au bord de la défaite, elle put retourner la situation en sa faveur grâce à l'entrée en action de la marine américaine dans le Golfe. Ni vainqueur, ni vaincu était le credo américain dans la guerre Iran-Irak. Henry Kissinger déclarait crûment « Nous voulons qu'ils continuent à s'entretuer le plus longtemps possible ». Mais ce constat de la duplicité américaine était passé au second plan lorsque les Irakiens avaient constaté que les États-Unis leur offraient ce qu'ils avaient de meilleur en technologie et en aide financière. Pour l'heure, la fin de la guerre avec l'Iran ne paraissait pas devoir marquer celle de l'alliance entre Washington et Bagdad. Les hommes d'affaires arrivèrent en masse dans la capitale irakienne, espérant être enfin payés comme pour une nouvelle ruée vers l'or. Mais les problèmes apparurent vite. L'Irak était incroyablement endetté. Sa dette se montait à 70 milliards de dollars, et plus encore si l'on compte les 35 milliards de dollars extorqués par Saddam Hussein à ses voisins arabes en argent et en pétrole.
Il faut remarquer que, malgré cette dette écrasante, les Américains ont continué à commercer avec l'Irak de Saddam Hussein et faire d'excellentes affaires. Pourtant, aux États-Unis, même de plus en plus de voix s'élevaient pour critiquer ces relations privilégiées.
Au nom des droits de l'homme,
oui,
c'est ça.
Le gazage des Kurdes, accusés d'avoir parti lié avec Téhéran, avait provoqué une intense indignation dans le monde entier. Mais à la Maison-Blanche, on ne voulait rien savoir. Et le président Bush refusait les sanctions économiques que certains membres du Congrès proposaient à l'encontre de l'Irak.
Bush qui va pourtant mobiliser une force considérable pour vaincre Saddam Hussein en 1991. Alors, que s'est-il passé entre-temps ?
Eh bien ça, nous en avons parlé l'an passé. Je suis sûr que vous vous en souvenez.
Ouais.
Bon, alors j'y reviens très rapidement. Depuis longtemps, pour protéger la sécurité de leurs approvisionnements pétroliers, les Américains voulaient disposer de bases dans la région. Or, les dirigeants d'Arabie Saoudite refusaient avec la dernière énergie que des militaires américains stationnent sur leur sol.
Pour des motifs essentiellement religieux.
Oui, et en agitant la menace militaire qu'auraient fait peser sur l'Arabie les troupes irakiennes, les Américains obtiendront gain de cause. La seconde raison, c'est Israël. Tant que la guerre Iran-Irak mobilisait les forces de deux de leurs ennemis les plus acharnés, les Israéliens ne s'étaient pas inquiétés.
Mais avec la fin de la guerre, ils pouvaient craindre que le formidable arsenal de Saddam Hussein ne se retourne contre eux.
Exactement. Et on a poussé Saddam Hussein à la faute pour permettre de réduire à néant son potentiel militaire. Rappelez-vous, non seulement les pays arabes refusaient d'annuler la dette irakienne, mais les dirigeants koweïtiens avaient accru leur production de pétrole et provoqué une chute des cours qui était catastrophique pour l'Irak déjà financièrement étranglé. Le résultat, on le connaît. Saddam Hussein, qui ne croyait pas à une intervention américaine, est tombé dans le panneau.
Ouais, il a envahi, puis annexé le Koweït afin de s'emparer essentiellement de ses puits de pétrole. Or, c'était un piège.
Oui, oui. Car avant cette annexion, Washington avait les moyens de peser sur des pays arabes qui étaient tous des alliés. Enfin, passons, car j'ai l'impression de me répéter. Le plus étonnant, c'est ce qui s'est passé après. Après le cessez-le-feu, décidé unilatéralement par le président Bush.
Et à la grande surprise de ses alliés.
Et même des chefs militaires américains, car l'armée de Saddam Hussein était alors complètement laminée, à l'exception de la garde républicaine.
Qui était, il faut le rappeler, le corps d'élite, qu'il a toujours d'ailleurs, le corps d'élite de l'armée irakienne.
Oui, la garde prétorienne de Saddam Hussein. Très étrangement, les Américains avaient permis à ces unités militaires de s'échapper. En tout cas, d'un simple point de vue tactique, rien ne s'opposait à ce que les troupes alliées ne progressent jusqu'à Bagdad et renversent le régime.
Pour finir le travail, comme on disait élégamment à l'époque.
Oui, mais je vais plus loin. Il n'était peut-être pas même nécessaire de marcher sur Bagdad, tant le pays désorganisé échappait au pouvoir central. Souvenez-vous, au nord, les Kurdes se soulèvent et très rapidement, leurs combattants s'emparent de toutes les villes.
Oui, et puis au sud, il y a les chiites.
Une véritable intifada. Dès lors, il n'y a plus d'autorité, la grande majorité des provinces irakiennes n'obéissent plus à Bagdad. Et si les conditions du cessez-le-feu sont strictement respectées, c'est-à-dire si l'armée de Saddam Hussein demeure contrainte à l'impuissance, il est évident que le régime baasiste va s'effondrer tout seul. Or, George Bush, contre toute attente, va sauver Saddam Hussein.
Ouais, vous n'exagérez pas un peu, là ?
Absolument pas. Écoutez bien. L'intifada chiite prend rapidement de l'ampleur dans les provinces du Sud. Les insurgés sont d'autant plus déterminés qu'ils pensent être encouragés par les Américains. Eh bien non. Lorsque Saddam Hussein demande aux généraux américains d'utiliser les hélicoptères de sa garde républicaine pour réprimer la rébellion, on lui répond positivement. On consent même à ce qu'il utilise son artillerie lourde. Ça se traduit forcément par un vrai massacre.
Ouais, ben alors, comment expliquer ça ?
La position officielle des Américains consistait à dire « Nous avons reçu un mandat des Nations Unies pour libérer le Koweït. Nous nous limitons là et nous n'avons pas à nous mêler des affaires intérieures de l'Irak. » Surtout, nous ne voulons pas risquer la vie de nos soldats dans une guerre civile.
C'était parfaitement hypocrite.
Ouais, je suis d'accord avec vous, ça ressemble à de la non-assistance à peuple en danger. Car grâce à leurs observations aériennes, les Américains n'ont rien ignoré des exactions commises par les troupes de Saddam. Des troupes qui, encore une fois, utilisaient l'arme chimique pour venir à bout de leur rébellion chiite.
Et au nord, chez les Kurdes ?
C'est exactement le contraire qui va se passer. Des troupes américaines interviennent dès le mois d'avril pour protéger les Kurdes de la répression de Saddam Hussein. Et depuis, le Kurdistan est quasiment indépendant. Ouais,
alors, deux poids, deux mesures.
Oui, ça y ressemble. Mais ça s'explique très bien. Quand je vous ai dit que Bush avait sauvé le dictateur irakien, c'est objectivement vrai, puisqu'il suffisait aux Américains d'interdire à la garde républicaine d'entrer en action pour que les opposants chiites renversent le régime. Mais en réalité, ce qu'attendait le président américain, c'est que les généraux irakiens le débarrassent de Saddam Hussein.
Parce qu'il croyait à la possibilité d'un putsch.
Il l'espérait. un putsch commis par des généraux sunnites, puisque ce sont les musulmans sunnites, pourtant très minoritaires, qui accaparent tous les postes de responsabilité.
Alors, ça signifie que Bush voulait surtout éviter que les chiites arrivent au pouvoir.
Oui, les Américains ne pouvaient pas accepter la création d'une deuxième république islamiste dans la région. Et pour se justifier, ils prétendront que les Iraniens se trouvaient derrière la rébellion chiite.
Les Iraniens, c'est vrai ça?
Les Iraniens ne pouvaient qu'approuver cette rébellion de leurs frères chiites. Mais à ma connaissance, ils ne sont pas intervenus directement, ou alors très ponctuellement.
Bush a sauvé Saddam Hussein malgré lui.
C'est à peu près ça, oui, mais je vais plus loin. Et c'est toujours valable aujourd'hui, d'ailleurs. On aurait pu imaginer que les Américains et leurs alliés, marchant jusqu'à Bagdad, éliminent Saddam Hussein et instaurent un régime démocratique. Que se serait-il passé? Les chiites majoritaires dans le pays se seraient mathématiquement emparés du pouvoir. Ça n'était pas acceptable pour Washington. Et ce problème chiite demeure une sacrée épine pour George Bush Jr. au cas où il se résoudrait à chasser Saddam Hussein à l'issue d'une seconde guerre du Golfe.
Mais son père, lui, s'est-il résigné?
Provisoirement. Après tout, la guerre lui avait permis d'atteindre la plupart de ses objectifs. Les forces militaires américaines étaient maintenant durablement installées dans les pays pétroliers du Golfe et l'Irak exsangue était désormais sous surveillance. Jamais les États-Unis n'avaient été aussi puissants. J'ajoute autre chose. Après tout, le fait que Saddam Hussein soit resté au pouvoir n'était pas entièrement négatif.
Ah bon? Que voulez-vous insinuer, là?
Il servait l'épouvantail. Tant qu'il demeurait à la tête de l'Irak, on pouvait toujours prétendre qu'il représentait une menace pour ses voisins. Des voisins qui se rangeraient bien sagement sous le parapluie américain et qui n'auraient aucune envie d'en sortir. Ouais,
parce que vous prétendez que la menace irakienne n'est pas crédible?
Non, j'ai pas dit cela. Encore qu'à mon avis, Saddam Hussein représente plus une menace pour son propre peuple que pour ses voisins.
Ouais.
Mais après la guerre du Golfe et les destructions de matériel destiné à fabriquer des armes chimiques, biologiques et nucléaires, imposées par les inspecteurs de l'ONU, le potentiel militaire irakien n'est plus ce qu'il était.
Oui, mais il a pu cacher des installations.
C'est probable. De même que l'argent du pétrole exporté en contrebande a sans doute permis de reconstituer quelques sites de fabrication d'armes. Mais je reviens à ce que je vous disais. Il importait que Saddam Hussein demeure un épouvantail, quitte à prendre quelques libertés avec la vérité.
Que voulez-vous dire?
Je veux parler d'une affaire curieuse qui s'est produite en 1993. Une tentative d'assassinat contre George Bush. Bien sûr, c'était Saddam Hussein qui était le commanditaire, apparemment en tout cas.
En septembre de l'an passé, le journal Le Monde a publié un important dossier sur l'Irak et la guerre annoncée. André Fontaine, son ancien directeur, y analyse les conséquences de la guerre du Golfe. Encouragés par un appel de George Bush, père, alors président, les chiites se révoltent massivement contre le dictateur. Mais rien n'empêchera celui-ci de les écraser, Paris et Londres entendant rapatrier leurs hommes au plus vite, Colin Powell, alors numéro un de l'armée américaine, pensant de même, et surtout les émirs de la région n'ayant aucune envie de voir s'installer à Bagdad un pouvoir influencé par Téhéran. Les Kurdes auront été plus heureux, qui grâce en partie à Daniel Mitterrand et à Bernard Kouchner, bénéficient aujourd'hui de l'autonomie interne dans une zone neutralisée par l'aviation alliée. Depuis lors, Saddam joue au chat et à la souris avec les anglo-saxons, convaincus que son objectif prioritaire est de se doter d'armes de destruction massive capables, en tout état de cause, de menacer Israël et l'Arabie saoudite. D'où des raids fréquents que la population subit de plein fouet, de même que les sanctions imposées par l'ONU.
Au mois d'avril 1993, George Bush Senior, qui n'est plus président des États-Unis depuis quelques mois, fait une visite triomphale au Koweït pour commémorer la libération du pays 2 ans plus tôt. Il est reçu en héros et l'émir le décore. 3 semaines plus tard, les autorités koweïtiennes déclarent avoir éventé un projet d'assassinat visant l'ex-président américain au cours de sa visite dans l'émirat. Ce que confirme aussitôt à Washington un haut responsable de l'administration qui ajoute que Bagdad se trouvait derrière cette affaire.
Et quel était le plan prévu?
D'après les Koweïtiens, il y en avait plusieurs. 2 consistaient à faire exploser des voitures piégées sur le parcours de l'ancien président. 3e prévoyait un attentat suicide. Un homme porteur d'explosifs qui se serait fait sauter dans l'immédiat entourage de Bush. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas qu'à Bagdad, on a aussitôt démenti toute implication dans cette affaire.
Mais comment avait-on découvert ce complot?
Les autorités koweïtiennes ont affirmé que 1 mois avant la visite de l'ex-président, grâce à une source irakienne, ils avaient eu vent d'une tentative d'attentat contre Bush. Ils avaient donc pu intercepter les terroristes avant qu'ils ne puissent agir.
Ces hommes ont donc été arrêtés?
Oui, une bonne dizaine. Et ils seront jugés assez rapidement. Mais avant, je voudrais vous dire que des enquêteurs du FBI ont été envoyés sur place. et le rapport qu'ils enverront au président Clinton va revêtir une très grande importance. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Des hommes sont donc arrêtés. 11 Irakiens et 3 Koweïtiens.
Et ils reconnaissent leur culpabilité ?
2 d'entre eux, oui. Enfin, voyons dans quelles conditions ils ont été arrêtés. Très bizarre. Ils ont été pris par la police alors qu'ils marchaient dans le désert.
Qui faisaient-ils ?
Ils étaient tombés en panne d'auto et ils regagnaient l'Irak à pied.
Curieux terroristes.
Hein. Vous avez raison, parce qu'ils avaient abandonné leur 4x4. Le 4x4 où se trouvait en principe la bombe qui devait tuer George Bush.
C'est de plus en plus bizarre.
Ce n'est pas fini. 2 des hommes arrêtés, 2 Irakiens, sont donc passés aux aveux. Le premier, un certain Al-Ghazali, est un infirmier. Il affirme qu'il a été approché début avril par un agent des services secrets irakiens.
Mmh. Et la visite de Bush, là, au Koweït, a eu lieu à quelle date exactement ?
À la mi-avril.
Ouais. Ah, ça ne laissait pas beaucoup de temps à cet infirmier, pour préparer son affaire. Hein.
Un homme qui n'avait aucune expérience en matière de terrorisme,
bah, oui.
Et à qui on allait confier une mission de première importance. S'il ne réussissait pas à faire sauter sa voiture piégée, on lui avait même remis une ceinture d'explosifs qu'il devait s'attacher autour du corps. S'approcher le plus près possible de Bush et se faire sauter.
C'est pas très crédible. Hein.
Non, car les auteurs de ces attentats suicides reçoivent généralement un entraînement et surtout un long conditionnement psychologique.
Mm-hmm. Et le deuxième, là, passé aux aveux ?
C'était en principe le chef du commando, nommé Al-Assadi. Lui, c'est un contrebandier notoire. Installé à Bassora, il traverse régulièrement la frontière koweïtienne avec de l'alcool, des armes ou encore du hashish. Il avoue simplement qu'un agent irakien lui a demandé de transporter des explosifs à Koweït City. Des bombes qui devaient perturber le voyage de Bush au Koweït. Mais, prétend-il, il se serait débarrassé de la dynamite et des détonateurs après le passage de la frontière.
Mais ces deux hommes-là et leurs éventuels complices, se sont-ils réellement rendus à Koweït City ou sont-ils tombés en panne avant ?
Ils sont en principe allés à Koweït City. Je dis en principe parce que rien n'est clair dans cette affaire. Ce qui peut apparaître comme à peu près certain, c'est que les autres, ceux que vous appelez les complices, se sont vraiment rendus dans la capitale de l'Émirat, parce que c'était le but de leur voyage. En fait, c'était de simples voyageurs qui venaient au Koweït pour affaires ou pour rendre visite à des proches.
Moi, j'ai l'impression que vous ne croyez pas beaucoup à la vraisemblance de cette affaire.
Vous ne vous trompez pas. D'abord, il faudrait savoir dans quelles conditions les deux présumés terroristes sont passés aux aveux. La police du Koweït est plutôt réputée pour utiliser des méthodes musclées lors des interrogatoires.
Oui, alors les deux hommes auraient pu être battus ou même torturés.
Oui, tout à fait possible. Et ces aveux déjà fort invraisemblables auraient pu leur être extorqués. D'autre part, la personnalité des terroristes. Un infirmier et un contrebandier faisaient planer un soupçon d'amateurisme sur l'affaire. Les services irakiens, s'ils étaient en cause, n'auraient certainement eu aucun mal à trouver des gens plus expérimentés pour assassiner George Bush. Mais c'est la suite qui est intéressante. Le FBI, je vous l'ai dit, a envoyé des enquêteurs au Koweït.
Oui, et ils ont rédigé un rapport.
Rapport transmis au plus haut niveau à Washington.
Ça me paraît normal, un attentat contre un ancien président américain, c'est pas rien. Hein.
Je suis d'accord. Au terme de leur enquête, les agents du FBI concluent formellement que le commanditaire de l'attentat se trouve à Bagdad.
Ouais, Saddam Hussein.
Ah, il ne pouvait pas en être autrement.
Mmh. Mais sur quelles preuves se fondent-ils ?
D'abord, ils estiment que les aveux des terroristes sont sincères et ont été recueillis dans de bonnes conditions.
Ouais,
en passant. Ensuite, ils font des comparaisons. La bombe retrouvée dans la voiture abandonnée par les terroristes contiendrait un explosif de même nature que celui saisi 2 ans plus tôt en Turquie sur un agent irakien. D'une fabrication très sophistiquée et n'aurait pu provenir que de l'arsenal d'un État.
Ça, c'est déjà plus sérieux.
Oui. Et enfin, les hommes du FBI ont analysé le dispositif électronique de mise à feu à distance et ils ont découvert qu'il s'agissait d'un modèle déjà utilisé par les Irakiens lors de la guerre du Golfe.
En conclusion, c'est l'Irak, l'attentat est ici.
Et Bill Clinton ne peut plus hésiter. Ça fait des semaines qu'on lui reproche de ne pas avoir décidé de représailles plus tôt, dès qu'on avait appris l'existence de cette tentative d'attentat contre son prédécesseur.
Et pourquoi, alors, a-t-il hésité d'après vous ?
D'abord parce que c'était sans doute dans son tempérament. Bill Clinton, alors tout jeune président, donnait sans cesse l'impression de ne pas savoir décider. Ensuite, il savait qu'il fallait particulièrement se méfier des informations provenant du Koweït. Rappelez-vous les bobards qu'on a colportés lors de l'invasion irakienne, les bébés qu'on arrachait des couveuses, non ? Il avait de bonnes raisons de douter.
Oui, mais maintenant qu'il a ce rapport du FBI sous les yeux, il doit agir, c'est ça, non ?
C'est ce qu'il va faire immédiatement. Le rapport est arrivé sur son bureau vers la fin juin. 2 jours plus tard, une 20aine de missiles Tomahawk à $1 million pièce sont tirés sur le siège des services secrets irakiens à Bagdad. Malheureusement, 3 des missiles ratent leur cible. Et une poignée de civils, dont un célèbre artiste, sont tués.
Ouais, dommage collatéraux.
Oui, mais l'opération est quand même tout bénéfice pour Clinton. Alors que sa cote de popularité fléchissait dangereusement, le voilà soudain requinqué et il gagne d'un seul coup 10 points. Seulement, l'affaire n'est pas terminée pour autant, car des journalistes américains n'ont pas manqué de soulever les bizarreries de ce dossier. Et même à la CIA, dans un document très confidentiel, on émet des doutes.
C'est-à-dire, alors?
On soupçonne les Koweïtiens d'avoir purement et simplement inventé cette affaire.
Mais dans quel but, alors?
Faire en sorte que l'épouvantail Saddam Hussein continue à faire peur et faire croire que l'Irak menaçait toujours les intérêts occidentaux au Moyen-Orient.
Alors, selon vous, il s'agirait d'un montage?
C'est très vraisemblable. Et comme je suis également persuadé que les agents du FBI, qui ne sont pas plus bêtes que d'autres, ont sciemment marché dans la combine.
Ouais, mais pour quelle raison, il faut
dans l'administration, dans l'administration américaine, on n'avait pas admis la façon dont s'était terminée la guerre du Golfe.
Ouais, le fait qu'on ait épargné Saddam Hussein.
Oui, il y avait pas mal de gens qui étaient décidés à tout faire pour qu'on termine le travail, comme vous l'avez vous-même dit. Le poteau rose a été découvert par un de vos confrères américains, un journaliste d'investigation, Seymour Hersh.
Un grand journaliste.
Oui, il a d'abord démontré que les composants du dispositif électronique de mise à feu de la bombe étaient fabriqués à des centaines de milliers d'exemplaires à Taïwan. On en trouvait dans des jeux, des talkie-walkie, etc.
Mais pas seulement l'Irak.
Et d'autre part, oui, les experts qu'il a consultés lui ont affirmé que la bombe elle-même n'avait rien de sophistiqué et que n'importe qui avait pu la fabriquer. Les deux principales charges du rapport FBI s'écroulaient donc. Mais les Américains n'avaient pas l'intention de rester là. Si vous voulez bien encore me prêter l'oreille, nous en parlerons la semaine prochaine.
Rendez-vous est pris pour un deuxième entretien à propos des États-Unis et de l'Irak. Enfin, en ces temps volontiers belliqueux, je voudrais attirer votre attention sur un livre indispensable, « Les seigneurs de la guerre », seigneurs avec un A. Son auteur, Jean Bacon, y raconte avec une ironie mordante, fraîche et joyeuse comme il convient, l'histoire de la guerre et de ceux qui la font. On lit par exemple que l'on fait la guerre une bonne dernière fois pour ne plus avoir à la faire et que certains chefs d'État contemporains soutiennent que leur politique hégémonique est en fait le prélude à l'instauration d'une paix universelle. On ne saurait être plus d'actualité. Le livre de Bacon est publié par Phébus.